Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La Cour de cassation a requalifié en contrat de travail le lien entre Uber et l'un de ses chauffeurs. Que change cette décision pour le géant américain des VTC? Met-elle en péril le modèle de l'ubérisation? Bonjour Frédéric Fréry, vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP. Qu'implique la décision de la Cour de cassation qui a donc requalifié en salarié un chauffeur jusque-là auto-entrepreneur? On imagine que c'est le principe même de l'ubérisation qui est en partie contesté par cette décision.
Oui, effectivement, le principe en fait de l'organisation de Uber, c'est que là où une entreprise normale a ce qu'on appelle des frais fixes, c'est-à-dire qu'elle paye des salaires tous les mois, eux ils ont des frais variables, c'est-à-dire qu'ils font appel à des prestataires qui possèdent leur propre voiture et ça permet une extrême flexibilité. Et tout le principe de la croissance de Uber qui a été considérable, hein, 28 000 chauffeurs quand même en France aujourd'hui, ça reposait sur le fait que eux avaient finalement relativement peu d'investissements fixes et pas de salaire à payer ou très peu leurs propres salariés qui sont en fait très peu nombreux par rapport au nombre de chauffeurs. Cette requalification, ça change complètement cette logique, parce que maintenant, les chauffeurs qui pourraient le demander, parce qu'attention, c'est un cas d'espèce, hein, c'est un chauffeur qui l'a obtenu, mais cet arrêt de la Cour de cassation peut faire jurisprudence, et donc les chauffeurs qui pourraient le demander pourraient devenir des salariés de Uber ou être requalifiés en tant que tels. Et donc, par exemple, s'ils sont exclus du système, ils peuvent demander une prime de licenciement, ce qui est tout à fait légal quand on est salarié.
Une décision du même type a été prise l'an dernier en Californie, je crois, Frédéric Ferry.
Tout à fait, il y a eu la même chose, à peu de choses près, requalification aussi. Alors, Uber a essayé de mettre en place des choses. Hein. Ils ont essayé de montrer, parce que là encore, ce sont des cas d'espèce, c'est chaque chauffeur qui le demande. Et donc, ils ont essayé de montrer que non, il n'y avait pas une relation de subordination, par exemple. Et ils ont permis aux chauffeurs, dans certains cas, de pouvoir décider eux-mêmes des prix, ce qui est quand même assez étonnant par rapport à ce qu'on connaît ici. Et aussi une chose qu'a utilisé Uber assez fréquemment, et on le voit en France, c'est qu'ils ont aussi poussé leurs chauffeurs à utiliser plusieurs plateformes en même temps. Quand vous prenez un Uber aujourd'hui, vous pourrez voir que souvent ils ont deux, voire trois téléphones sur leur tableau de bord. Et bien ça c'est parce que Uber leur a dit, pour pas qu'on puisse dire que vous dépendez uniquement de nous, vous devez travailler également pour d'autres plateformes. Donc ils ont un téléphone sur Uber, un autre sur Captain et un autre sur un autre prestataire, ce qui permet éventuellement, en cas de contestation, de dire qu'il n'y a pas une relation de client unique et donc finalement de subordination qui peut être qualifiée comme salarié.
Et oui, parce que l'un des arguments d'Uber consiste à dire, ça n'est pas nous qui décidons d'envoyer le chauffeur à tel endroit, c'est le client final.
Tout à fait.
Donc, ça n'est pas nous qui donnons des ordres, Frédéric Fréry.
Absolument. Alors même le chauffeur lui-même, hein, parce que les chauffeurs ils ont une carte en fait, et ils peuvent décider d'aller à certains endroits plutôt qu'à d'autres, c'est en rouge ou en vert suivant s'il y a beaucoup de demandes ou peu, et c'est plus ou moins cher. Donc certains chauffeurs vont là où c'est plus cher, mais enfin en même temps il faut faire le trajet, donc ça peut coûter plus cher en termes de coûts. Mais effectivement, ils laissent... Alors, c'est une liberté qui est toute relative quand même, hein, parce que c'est quand même Uber qui décide des tarifs, c'est Uber qui décide finalement de la journée que vous pouvez faire. Au-delà d'un certain temps, ils sont obligés d'arrêter. Donc, on peut quand même dire qu'il y a, que l'arrêt de la Cour de cassation est tout à fait défendable.
Mais alors, si un salarié est affilié à plusieurs plateformes, parce que là, on n'a pas affaire, j'ai dit un salarié d'ailleurs, mais en réalité, il faudrait dire un chauffeur.
Ouais.
Si un chauffeur a plusieurs plateformes et qu'il choisit entre elles, Frédéric Fréry, est-ce que précisément, on peut considérer que c'est encore un salarié d'Uber, ou est-ce que c'est cet argument qui va être invoqué?
Là, ce sont les juristes en fait qui décideront de ça. Ce qui est très intéressant, c'est que cet arrêt de la Cour de cassation, qui une fois est un cas d'espèce, fait jurisprudence. Jusqu'ici, lorsque vous étiez chauffeur, alors point vocabulaire intéressant. D'ailleurs, Uber ne parle jamais de chauffeur Uber, il parle de chauffeur avec Uber, pour bien préciser que c'est pas leur chauffeur à eux. Jusqu'ici, quand il y avait une contestation éventuelle, si le chauffeur essayait d'aller au prud'homme, on lui disait, mais non, parce que ça relève pas du droit du travail, ça relève du droit commercial. Le point très important de cet arrêt d'accord de cassation, c'est de dire que maintenant, non, ça relève du droit du travail. Et donc, quel que soit le cas, un chauffeur qui aurait éventuellement un problème avec Uber pourra donc, cette fois-ci, aller dans le droit du travail auprès des prud'hommes, donc.
Conséquence de tout cela, Frédéric Fréry, ça va renchérir le coût pour Uber de ses chauffeurs. Or, Uber était déjà en déficit. Qu'est-ce qui va arriver?
Alors, déficit considérable. L'an dernier, ils ont perdu 8,5 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 12,9. Donc, c'est vraiment des proportions qui sont dantesques. Et d'après certaines études qui ont été faites par des collègues californiens, où c'est déjà arrivé, ça augmenterait le coût de Uber d'à peu près 30%. Ce qui est tout à fait logique, hein, parce que vous avez toutes les charges afférentes normales au fait que vous avez un salarié. Bien évidemment, des charges patronales, des charges salariales. Augmenter encore de 30% les coûts, là, ça paraît extrêmement difficile, vu la situation déjà financière très très problématique de Uber. Cela dit, cette situation problématique n'est pas un scoop, ça fait longtemps qu'ils perdent de l'argent, ils ont perdu maintenant plus de 20 milliards depuis qu'ils existent, et pourtant il y a toujours des gens qui continuent à mettre au pot, des investisseurs qui continuent à vouloir rentrer dans le capital de Uber, et quand ils sont rentrés en bourse l'an dernier, il y a des gens qui ont acheté l'action. Au passage, action qui n'a jamais depuis retrouvé son cours d'émission.
Mauvaise introduction, comme on dit, parce que les actionnaires et les investisseurs surtout croient peu finalement dans ce business model, Frédéric Fried, dans ce modèle économique.
C'est compliqué parce que les gens l'ont acheté cette action. Hein, et ceux qui avaient été investisseurs avant l'entrée en bourse, finalement, ils s'en sont très bien sortis. On est sur un phénomène qui est extrêmement étrange avec Uber, parce que c'est une entreprise qui finalement admet que elle n'a jamais été rentable et que la probabilité qu'elle le soit n'est pas absolument évidente. Et pourtant, vous avez toujours des investisseurs qui cherchent à acquérir son action. Une explication peut-être parmi d'autres, c'est ces fameuses histoires de taux zéro, c'est-à-dire que vous ne trouvez plus rien qui rapporte de l'argent, et donc il y a des gens qui acceptent de prendre des risques qui sinon paraîtraient peut-être quelque peu excessifs.
En conclusion, Frédéric Fréry, est-ce que c'est une décision qui va également s'étendre à d'autres services ubérisé, par exemple, la livraison de repas?
C'est extrêmement probable. Là encore, cette jurisprudence va jouer. C'est intéressant de noter d'ailleurs que l'arrêt de la Cour de cassation, quand il a été publié, a été traduit en anglais et en espagnol pour bien montrer aux cours étrangères que ça peut servir d'exemple. Et il n'y a aucune raison, effectivement, que ça se limite spécifiquement à Uber, mais que ça touche tout ce qu'on appelle l'ubérisation aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, les livraisons de repas, par exemple, les rechargeurs de trottinettes, ou tout ce genre de choses qui fonctionnent pareil avec des auto-entrepreneurs, qui pourraient éventuellement maintenant, en cas de problème, être qualifiés comme des salariés.
Ben voilà, c'est encore une épidémie, alors chacun jugera si c'est une bonne ou une mauvaise épidémie. Merci beaucoup Frédéric Fréry.
Merci.
Je rappelle que vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP.